Coco. Hey, viens là.
C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnola. Solo Soro. Yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour, et puisqu'aujourd'hui encore nous frappons à votre porte, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau voyage dans l'Afrique enchantée. Un périple musical qui nous mènera dans les grandes heures de la modernité vue d'Afrique, donc avec ses manifestations tantôt mirifiques, joyeuses, tristes ou cocasses. Et n'oubliez pas d'aller chercher votre atlas, de l'ouvrir bien sûr sur la carte de l'Afrique. Nous vous emmenons tout de suite dans le monde magique des motocyclettes en folie, de la télévision et ses mirages, des concerts de cellulaire, bref, de la mondialisation en marche. Et comme chaque jour, pour vous raconter cette grande, grande Afrique, j'ai à mes côtés le professeur Souleymane Koulibaly, dit Solo Soro, alias le Grognon. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Ça va?
Ça va très bien, on s'accroche toujours.
Bon Solo, il faut quand même que je précise tout de suite que si je t'ai appelé Solo Soro, alias le Grognon, c'est pas pour te dénigrer ou, comme on dit chez toi, gâter ton nom à l'antenne en faisant croire que t'es un râleur ou un ronchonneur de première. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que du temps où tu officiais à la radio nationale de Côte d'Ivoire, tu animais une émission qui s'appelait Le Grognon.
Je te rassure, Vlad, jamais tu me dénigreras. Je sais que tu as le respect des aînés. Mmh. Effectivement, Le Grognon, c'était une émission sur la Radio Nationale de Côte d'Ivoire, interactive, dans laquelle les auditeurs pouvaient intervenir par téléphone et rendre compte des exactions, des tentatives de raquettes, des escroqueries dont ils ont été victimes dans l'administration publique et même dans les services privés. Ce qui permettait d'étaler sur la place publique tous les fonctionnaires qui étaient passibles d'attitudes, on va dire, répréhensibles.
Voilà. Ok, ceux auxquels il faut donner un tais-toi, un billet de 10 000 francs pour les faire taire. Et justement, en fait, Grognon, on pourrait croire que c'est une situation délicate et pas très enviable, mais parfois, ça t'a un peu sauvé la mise.
Ouais, ça m'a sauvé la mise, surtout ça a sauvé la mise à un chauffeur de taxi, dans lequel, un taxi collectif, bien entendu, dans lequel j'étais. Et puis, apparemment, le policier qui a constaté qu'il n'avait pas toutes les pièces en règle et voulait un petit billet, peut-être pas un tais-toi, mais un clic, c'est-à-dire un billet de 1000 francs. Et puis il dit, hey, chef, bonjour, pardon, je suis un peu pressé, je vais à la radio. Il dit, allez-y, laissez-le, partez. Voilà, il s'est dit, oulala, si jamais j'escroque, il va encore en parler à la radio.
Oui, la radio qui a une place si importante en Afrique, où l'oralité a toujours la mise, a toujours le haut du pavé, et ben, elle est arrivée justement dans les valises de la fée modernité, tout comme le téléphone.
Dans le téléphone sonne,
C'était Ton ami n'est pas ton ami par les Bantu Monuments, un groupe du Congo Brazzaville. Sur la carte, c'est en Afrique centrale, sur la côte atlantique, entre le Gabon et l'autre Congo, celui qu'on appelle le Congo Kinshasa. Alors quand on entend les Bantu Monuments, on comprend que le téléphone a été utilisé assez tôt comme un instrument de harcèlement téléphonique. Parce que je ne sais pas si vous avez bien suivi les paroles, mais dans la chanson, c'est l'histoire de cette femme qui se plaint du fait que le collègue de son mari l'appelle pour lui raconter les infidélités de son époux. Et en même temps, ce fameux collègue, il lui propose des rendez-vous galants. Est-ce que c'est sérieux? Alors, cette femme, du coup, elle ne sait plus où donner de la tête. Qui peut-il croire, son mari ou bien son ami? Ce qui est sûr, c'est que quand le téléphone sonne, allô, allô, ton ami est au bout du fil et que peut-être ton ami n'est pas ton ami.
L'Afrique enchantée.
Donc on aura compris, Solo, parmi les signes extérieurs de la modernité, il y a le téléphone. Et pour savoir un petit peu le téléphone fixe, il est arrivé quand chez vous en Côte d'Ivoire?
Eh bien, toi aussi, tu me poses une colle.
Ah, bon, enfin, ça fait plaisir.
C'est-à-dire, je ne saurais te donner une date précise ou donner une date précise à nos auditeurs de France Inter, mais en tout cas, c'est à l'époque coloniale, à la veille peut-être des indépendances des années 1960. Mais même après ces indépendances, c'était le nec ultra chic que d'avoir un téléphone. On a dû attendre jusque au tournant des années 90 pour voir les prix du téléphone se démocratiser, parce que ça coûtait extrêmement cher pour avoir un téléphone. Il n'y avait que les personnalités de l'administration, ce qu'on appelle chez nous les en haut des en haut, qui avaient des téléphones.
Les en haut d'en haut d'en haut.
Voilà, le haut de la société, de l'échelle sociale. Et donc, se faire installer une ligne de téléphone chez nous, en tout cas, c'était une galère innommable. D'abord parce qu'il y avait une forte demande quand les gens ont commencé à avoir de l'argent. Il n'y avait pas assez de techniciens pour ces installations. Et puis du coup, ça fait que les demandes d'installation de téléphone, c'était un petit fonds de commerce pour les fonctionnaires véreux. Tu vois ce que je veux dire? Les critères et les tétois qui doivent circuler. Et celui qui a un téléphone chez nous, ben, c'est presque un notable. Et son téléphone devient un téléphone communautaire. Tout le quartier se fait appeler chez lui. Du coup, quand tu as le téléphone chez toi et que tu as un fils immigré en France, aux États-Unis, en Allemagne qui appelle, dis, bon, ne quitte pas, hein, je vais aller chercher ta fille, tu vas venir te répondre. Et tu ne te rends pas compte que l'autre, ça lui coûte du fric, quoi. On fait le tour du quartier pour appeler la fille, etc. C'est pour ça que ce téléphone communautaire, enfin, l'installation du téléphone chez quelqu'un qui avait donc une valeur communautaire, était aussi un outil social parce que ça mettait les gens en lien.
Et le téléphone, on l'a vu tout à l'heure avec les Bantu Monuments, ça peut donc trahir les infidélités. Mais quoi de meilleur quand on a son téléphone personnel à la maison, même si effectivement les voisins en profitent, que de faire au téléphone des déclarations d'amour? Bolingo y a téléphone, l'amour au téléphone par le groupe Los Niquelos de Kinshasa.
Bolingo a téléphone, de Rundasina, le miango, na ebisio tete. Bolingo ya halo, na kokina mi bomba, na yo mwana mama. Ma kato kutani ya kotala kozongolo na denge ya mabe. Na senga kakose na ligipo na yeba lo lenge ya mongi. Shoti ya telefone umotema satana unakomi yeba hii. Thank you. ko telefone ona sinale mi ango na ebisi otete. Bolingo ya halo na kovina mi bomba na yomana mama. Koma kato putani ya kotala kodongolo na ndenge ya mabe. Nasenga kakonse na lingi pona yeba ulolenge ya mongi. Shoti ya telefone motema satana na komi yebai. Melu kanganga kisio akangela nga pungu. Akangela nga pungu na komi ndekole mbeli bala yano.
C'était Los Nickels, un groupe du Congo Kinshasa, le Grand Congo sur France Inter. Et la chanson, en fait, c'est une complainte, celle d'une femme qui souffre du comportement étrange de son chéri, de son amoureux, parce qu'il ne lui fait la cour qu'au téléphone, mais pas dans la vraie vie. Et elle le menace, si ça continue, elle va se suicider. L'affaire est grave, comme diraient les Congolais. Alors j'en profite ici pour remercier l'ami Kerwin Maïso, c'est donc un ami congolais qui nous a permis de comprendre un petit peu la saveur de ces chansons, puisqu'on ne parle pas ici encore couramment Lingala, qui est la langue qu'on parle à Kinshasa. Et je voudrais dire, j'en profite, puisque quand je l'ai appelé pour avoir un peu la traduction de cette chanson, le gars me dit « Ah, je suis sur le billard, dépêche-toi ». Alors, bon, évidemment, je m'excuse, je sais plus quoi faire. Il me dit non, le docteur me donne la permission, fais-moi écouter la chanson. Donc, je voudrais que pour l'instant, j'ai pas encore le pouvoir, mais je voudrais lui donner la médaille de l'Ordre national de la chanson congolaise. Et puisque cet été, justement, on va entendre pas mal de chansons congolaises, j'entends par là des deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, et les deux capitales se font face de chaque côté.
Séparées par le fleuve.
Exactement. Et donc, dans ces deux villes, Kinshasa et Brazzaville, on parle cette langue, le Lingala, qui est une langue hautement musicale, et je voudrais vous en apprendre deux mots très très importants et à la fois très doux. Bolingo, on vient de l'entendre, c'est l'amour, et motema, le cœur. Et ces deux mots-là, on les entend dans de très très nombreuses chansons congolaises, quoi, si ce n'est pas toutes. Alors dis-moi Solo, pour revenir à notre sujet donc autour de la modernité, avant même le téléphone, c'est moi qui me mélange les pinceaux, une des importantes étapes de la modernité sur le continent, ça a été le démarrage du chemin de fer.
Oh,
que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, avec par exemple le train Dakar-Bamako qui relie toujours les deux capitales du Sénégal et du Mali en Afrique de l'Ouest.
Ah non, le train, c'est vraiment la modernité. Et ça représentait un enjeu incroyable pour toutes les régions qui rêvaient de voir le train passait dans leur village ou dans leur ville, parce qu'ils savaient, ils se rendaient compte que ça allait susciter, favoriser le développement du commerce, le transport des marchandises, etc. Et faut dire que le train, ça servait d'abord et en premier lieu à faire sortir les matières premières dont la puissance coloniale avait besoin pour les conduire jusqu'à la mer, surtout des pays enclavés comme le Mali, qui amena une ouverture sur la mer par le port du Sénégal. Et c'est valable pour toutes les différentes régions de l'Afrique. Ça, c'était la première utilité du train, sortir les matières premières. Et ça aidait aussi à désenclaver tous les pays de l'intérieur du continent africain, tous ceux qui n'ont pas une ouverture sur la mer, parce que tout le monde est venu, je veux dire, tous les colonisateurs sont entrés par la mer. Et puis, chaque ville, chaque village que le train traversait...
Et oui, s'arrête en plus souvent.
Et oui, s'arrête. La gare devenait le lieu emblématique, le lieu, le centre social, le centre de réunification, de commerce, de rencontres, de déchanges, de tous ordres de cette ville. C'était donc un lieu social. Et ça a développé le commerce dans toutes ces villes, dans tous ces villages où passait le train. Et donc, ce lieu qui avait donc une animation extraordinaire, qui retrouvait tout le monde, les bazars commerciaux, les écrivains publics sur place. Oui, parce que vu que tout le monde ne parle pas français, les quelques-uns qui voulaient communiquer avec leurs parents dans d'autres villes, dans d'autres pays où le train passe par exemple, l'écrivain public venait s'installer à la gare, et puis la tante ou le tonton ou le grand-père qui vient dit: mon petit, tu vas m'écrire une lettre pour mon fils qui est à Caille. Et il écrivait, il parle dans sa langue, et le écrivain public l'écrit. Donc tout ce monde qui gravite autour de la gare de train avait besoin aussi de s'animer. Ou les voyageurs qui débarquaient dans une ville où il y a une gare, et qui n'avaient pas l'adresse de leur hôte de façon claire comme ici, le train, quand il arrivait la nuit, les gens dormaient sur place avant de rechercher leur adresse le lendemain, bien sûr, par les indications que leur donnent les gens de la ville. Et ce lieu est donc devenu un grand lieu d'animation. Et ce qui a fait qu'à Bamako, on a vu la naissance de l'orchestre du buffet, le Rai Band de Bamako. Et cet orchestre animait cet espace par sa musique.
Tu veux dire qu'à Bamako, dans la gare, il y avait un orchestre qui jouait?
Un orchestre qui est installé au buffet hôtel de la gare. Aujourd'hui, n'importe quel Français, n'importe lequel de nos auditeurs qui débarque à Bamako, qu'il demande le buffet hôtel de la gare, il est encore là aujourd'hui, sauf que bon, il n'est plus aussi animé qu'avant, quoi. Voilà.
Et en fait, l'orchestre, donc, ça permettait, puisque le train n'arrivait jamais exactement aux mêmes heures, qu'il pouvait avoir des heures et des heures de retard pour diverses raisons, de patienter en écoutant de la musique.
Et d'animer et les commerçants, et les voyageurs qui vont partir, et ceux qui n'ont pas de retrouver leur tuteur ou leur hôte et qui dorment sur place, et aussi les promeneurs qui venaient tromper leur ennui là, s'égayer là. C'était le seul lieu d'attraction, en fait, ou le principal lieu en tout cas, le principal lieu d'attraction de la ville, que ce soit à Dakar, à Bamako, ou à Abidjan, ou au Niger.
Du morceau Rai Band par le groupe du même nom, Rai Band de Bamako, ce fameux orchestre qui animait donc les longues heures d'attente du chemin de fer qui relie la capitale malienne à Dakar.
Et l'un des membres de ce fameux Rai Band, il est bien connu aujourd'hui en France, et c'est Salif Keïta, un chanteur dont la voix est énormément appréciée, que ce soit en Afrique ou que ce soit sur la scène mondiale.
Et une des choses que Salif Keïta justement a retenu, lui, quand on lui a parlé de modernité, c'est l'apparition sur le continent des instruments amplifiés.
D'abord la guitare, et avec les amplificateurs, la basse, tout ce qui est cordophone, et les pianos, tout ça. Je crois que c'est... j'étais pas là hein, quand ça a commencé, mais je crois que ça a commencé par ça apparemment.
Quel changement ces instruments et les amplificateurs particulièrement ont-ils apporté à la musique malienne ?
Ils ont apporté une autre façon de faire, une façon de d'interpréter les chants traditionnels ou bien de faire danser les gens, surtout sur une sur des places comme des balles, des surprises parties, des trucs comme ça et des concerts. Ça a amené ces choses-là dans la société. Parce qu'avant, il n'y avait pas de concerts quand même en Afrique, il faut se dire. Si vous êtes d'accord avec moi que ça, avec l'arrivée des instruments modernes, qu'on a pensé à faire des concerts, inviter des gens, et pour aller, sinon c'était des fêtes traditionnelles, sinon. Donc, ces façons de faire les concerts, les boîtes de nuit, les boîtes de jazz, tout ça, là. Ça, c'est tout ce qu'il y a comme modernité, ça c'est vraiment récent par rapport à ce qui se passait avant.
Où j'ai mal au pied, où j'ai mal au nez, et puis mon poignet, oh mais qu'est-ce que c'est, et puis mes mollets, à ma jambe et mes phalanges, mon dentier, mes dents, mes langues, que j'ai mal partout. Monsieur le docteur, qui mange très mal, oui, mange très mal la tête de Dieu. Monsieur le docteur, c'est vous gentil, vous me rétablir mon genou. Où j'ai mal au bras, où j'ai mal au foie, que ça ne va pas, et puis mes tibias, où j'ai mal partout, mes jambes, mes phalanges, mon ventre et mes dents, mes malingos, que j'ai mal partout, que c'est le docteur, mon mal, 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 mon mal. Babo, qui tout mon dos, qui des amoceaux, qui se coupe en morceaux, fais pas faire dodo, à ma jambe, mes phalanges, mon ventre, mes tempêtes, à la vie, je me passe, que j'ai mal partout, que le docteur, moi je fais mal à mettre de main, que le docteur, s'il est bougeant, il demeure à dire, ma dame, t'es le soudain, où j'ai mal partout, je fais pas faire dodo, je suis fatigué, je vais me coucher.
C'était Twist with the Doctor par le groupe Rico Jazz, un bon vieux morceau de 1962, venu lui aussi du Congo Kinshasa. Solo, juste avant qu'on entende Twist with the Doctor, Salif Keita évoquait l'apparition des instruments amplifiés venus d'Occident qui ont permis l'émergence d'orchestres grandioses comme le sien, comme celui du Buffet de la Gare, le Ride Band. Et il parlait aussi des surprises parties. Alors moi je voudrais bien savoir comment c'était les surprises parties de cette époque, vers la fin des années 60, début des années 70.
À quelques détails près, c'était des surprises parties comme ici, on a parlé de Twist, même il y a un Malien aussi, Karkar, qui a fait également un tube au Mali qui s'appelle le Twist de Boubacar, et il s'appelle Karkar. Bref, ces surprises parties, nous on commençait à recevoir les images de l'Occident, de l'Europe en général.
Les images, c'est-à-dire les photos,
les revues, qui arrivaient en Afrique, et donc on voyait les photos des yéyés, on voyait celles des blousons noirs et leurs motos, on avait également la mode afro-américaine avec la touffe de cheveux sur la tête, l'époque des Black Panthers, tout ça, on recevait toutes ces images-là. Et dans les surprises parties, donc, les orchestres locaux, urbains de façon générale, de ces orchestres-là, ils reprenaient tous les standards du rock, du twist, et de la soul music. Et nous, ça nous a fait danser, moi, toute mon adolescence, c'était ça, quoi. Quand ça twist, on est content, les jeans serrés. Et quand on trouvait même au piste local, des vieilles vestes en cuir, c'est qu'on l'achetait pour imiter l'image de la jeunesse occidentale. Et tous ces souvenirs-là, ils sont aujourd'hui immortalisé par des photographes, par des artistes photographes, comme les Maliens Malik Sidibé ou Seydou Keita. Voilà.
Keita, ouais, c'est des photos souvent assez incroyables puisque les portraits sont posés et que du coup les personnages choisissent de l'attitude, la pose dans laquelle ils sont, et ils sont toujours évidemment super bien habillés, taillés au cordeau avec des pattes d'éléphant incroyables. C'est vrai qu'apparemment il y avait une ambiance du tonnerre.
Et même cette mise en scène de la photo, c'est l'artiste photographe qui la réalisait. Il avait des costumes dans son studio. Quelqu'un qui avait envie de se présenter en blouson noir, tu vois, l'air penché, avec la dégaine incroyable, mais le photographe, il avait un blouson en cuir dans son studio qu'il te prêtait pour la séance. C'est vraiment, c'était l'âge d'or, quoi, de la création artistique, musicale surtout.
Et aussi, à cette époque-là, il y avait, je crois,
énormément de public et énormément de salles de cinéma.
Ouais, le cinéma, alors là, n'en parlons pas, c'était l'époque du développement de toute la culture des séries B. Tu vois, les westerns spaghetti, genre, qui vous montrent des films où l'Indien sauvage qui tue le blanc civilisateur venu civiliser l'Amérique, ou les peuplums occidentaux, où on nous montrait la civilisation romaine, où justement on voyait la sauvagerie des blancs, où les gens s'amusent à regarder un lion dévorer un esclave. Tu entends ça? Bon, bref, nous on dirait là-dessus, vous regardez pour nous. Il y avait également ce qu'on appelle aujourd'hui les Bollywood, et que nous on appelait en Afrique les films hindous. C'est toute cette production indienne qui envahissait le continent noir. Et des titres comme Wang Yu ne mange que de la brisure de rue. Alors là, ça c'était des titres et des films célèbres. Où ça branle dans les bambous.
Ça branle dans les bambous.
Ce sont les titres des films.
Mais c'est vrai.
Ça casse à Caracas.
Non, là tu exagères.
Mais non, pas du tout. Vas-y dans les archives, tu les retrouveras tous ces titres. Ou des films comme Massiste contre Goliath. Ou Le dernier des Mohicans. Bref, on avait tout ça qui animait nos salles et notre vie quotidienne, quoi.
Et puis bien sûr, après, un peu après, est arrivée la télévision. Et j'aimerais bien savoir, elle est arrivée justement chez vous, la télévision.
Ah là, cette fois-ci, c'est pas une colle, je me rappelle très bien. Disons que la Côte d'Ivoire, même du temps de la colonisation, était un pays relativement plus prospère, donc il y avait pas mal d'argent. Ça fait que la télévision est arrivée assez tôt en Côte d'Ivoire, exactement, le 7 août 1963.
Non, là, tu dis ça pour m'épater.
Non, pas du tout. Oufuette Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, il avait une vue grandiose de son pays. Il voulait tout de suite la télévision après les indépendances. Et le 7 août, c'était la date commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, de l'année 1963... La moitié de la Côte d'Ivoire, c'était pas encore, le pays n'était pas entièrement couvert par les émetteurs pour recevoir la télévision. La moitié de la Côte d'Ivoire découvre la télévision nationale. Donc la première animation, les premiers programmes ont présenté les festivités de cette commémoration. Et je me rappelle très bien de cette année, il fait partie des gens qui nous ont attirés dans le métier des médias. Georges Taï Benson, qui est devenu une star nationale de la télévision. Et vraiment, tu me renvoies dans des endroits. Enfin, pour beaucoup d'Africains, ces moments-là sont des moments forts de notre vécu, quoi.
Et bien sûr, j'imagine que la télévision, elle aussi, a mis du temps avant d'arriver dans tous les foyers, comme c'est le cas aujourd'hui. Je te propose, Solo, qu'on écoute deux points de vue sur la télévision, comme attribut, avatar, c'est selon de la modernité. L'un vient du Mali, l'autre du Maroc. Et donc le premier, c'est celui d'une première, elle vient du Mali, c'est la chanteuse Mamani Keïta.
Nous tous, on regarde la télé ensemble. Ici, on s'enferme dans la chambre, tu regardes ta télé tranquillement. Mais en Afrique, c'était pas comme ça. Sinon, on regarde la télé en Afrique, c'est pas pour s'enfermer à la maison. On les met dans la cour. Par exemple, j'ai une voisine, elle n'a pas de télé chez elle. Elle vient chez moi, dans la cour, elle regarde la télé tranquillement.
La télévision arrive avec des séries qui sont très populaires en Afrique.
À Dallas, oui, Dallas a eu beaucoup de succès. Et puis, le Dynasty aussi. Un jour, il y avait un film qui sortait, je ne sais pas, c'était un film brésilien. Il y avait une...
Terra Nostra, peut-être.
Peut-être, mais je ne me rappelle plus. Hein. Il y avait une actrice...
Ou Donna Beja.
Peut-être, ça doit être ça. Il y avait une actrice qui s'appelle Marie-Marie.
Ah, c'est Marimar.
Marimar, voilà. On a même une chanteuse malienne, tellement qu'elle est belle, on lui a donné le nom Marimar. Et il y avait une femme, elle avait mis la sauce sur le feu, elle était en train de regarder ce film-là, et donc ça a brûlé, et puis vers midi, 13h, le mari est venu, il n'y avait plus rien à manger, et c'était chaud.
C'était chaud comment?
Mais, écoute, c'est avec la ceinture, quoi.
C'est-à-dire?
Ben, elle a été tabassée par son mari. Et donc, du coup, même le vieux, ils avaient voté qu'on ne sort plus mari à la télé parce qu'il y a beaucoup de femmes au foyer qui commencent à déconner, tout ça. Ils ne s'occupent pas de leur mari.
Donc, la modernité a créé des problèmes sociaux.
Exactement, mais bon, ça va maintenant.
Alors, t'as fait de beaux rêves?
Ouais, fascinant. Je te trouve l'œil pétillant ce matin.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour,
Bobby.
Ouais?
Tu as lu les gros titres ce matin? La Westar Oil est encore classée première compagnie indépendante. Qu'en penses-tu? À mon époque, la société Wing était la première.
ça c'était donc Dallas, je crois que tout le continent a vu. Et Solo, moi tu m'as quand même pas mal épaté parce que dans l'interview que tu as faite avec Bamani Keita, on sent que tu connais Donna Beija, Miramar, mais dis donc, tu passes ton temps à suivre les séries télé.
Mais non, tu me connais, attends, faut pas vendre mon codio aux auditeurs de France Inter. Enfin voilà, je veux dire, faut pas me dénoncer aux auditeurs de France Inter. Tu sais très bien que moi, je regarde pas beaucoup la télé. Mais c'est inévitable. Tu es envahi de partout. Que tu le veilles ou pas, c'est à la une des journaux. Dans ton voisin mettre la télévision, tu peux éteindre la tienne et tu suis le film entièrement. Enfin, c'est pour ça que j'ai connu tous ces noms de ces séries de la télévision nationale, par exemple en Côte d'Ivoire. Et on a également un Vlad, on a un autre point de vue, celui de Hadi et Leïla, deux membres du groupe Kaina, un groupe marocain dont la musique s'inspire de la tradition pré-islamique, et il nous donne son point de vue sur la modernité.
Le phénomène de télévision devient pratiquement maintenant populaire, tout le monde a sa télévision chez nous au Maroc, il est omniprésente. Au Maroc, c'est que la drague se fait en égyptien.
Pourquoi ?
Parce qu'on est bombardé de séries égyptiennes.
Aussi, parce qu'il y a aussi, c'est un phénomène, je crois, qui atteint toute l'Afrique, tout le monde arabe, parce qu'il y a, la série qui est de Guadeloupe. Alors, Guadeloupe, quand il est venu, alors les filles, bon, ça crée un certain fantasme sur l'amour, le couple, les relations et tout. Donc, il est venu, il a été accueilli comme une star internationale, connue à tel point on a créé des tissus qu'on a appelés Guadeloupe. C'était phénomène Guadeloupe. On a fait des chansons Guadeloupe, un tube qui s'est vendu par des milliers d'exemplaires. Et c'est... Mais moi, comme a dit, c'est, on n'a pas peur de ça. C'est ça, ainsi, il y a toute cette... Ce mélange, ce bouillonnement, parce que les gens, ils ne savent pas où se donner la tête. Maintenant, il y a des centaines de chaînes arabes, occidentales, etc. Donc, mais au moins, moi, je crois qu'il y a des bons côtés, par exemple, sur le vestimentaire, sur le rapport, parce qu'il y a... Il y a un rapport entre les couples. Moi, je vois maintenant des séries, des programmes qui se font sur la première chaîne. Et je suis très... Parce qu'il y a quelques années, on ne voyait pas ça. C'est des couples qui se tiennent par la main et qui dansent ensemble sur le plateau. Dernièrement, j'ai vu une émission. Ça fait énormément plaisir. Moi, je suis très optimiste parce que ça bouge énormément et c'est sur la bonne voie.
Ragamu pala saman bajan tune ma jano sa tala Tata light ngala yunimo la kumpuri afene na fene mani go 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 Ma jano sa lai
Ce soir, une famille nous avait invités, mes amis et moi. Il y a quelques semaines de cela, nous étions une vingtaine à nous retrouver dans un grand salon, attendant avec impatience que le dîner soit servi. Devinez ce qui est arrivé. À 9h moins 5, la famille nous a abandonnés dans le salon, préférant s'entasser dans une petite chambre avec une télé mal éclairée, uniquement pour regarder cette fameuse émission.
Live Television par Youssou N'Dour. Alors c'est vrai Solo, on a parlé de tous ces soaps brésiliens, mexicains ou américains qui ont déferlé chez vous. Mais depuis quelques années, une dizaine d'années, je crois qu'il y a quand même de plus en plus de feuilletons africains produits en Afrique. Hein. Je crois que ce sont en Afrique du Sud, au Kenya ou bien en Afrique de l'Ouest.
Comment ? Nous aussi, modernité oblige. Hein. Non, pour parler plus sérieusement, il y a effectivement des productions nationales. On a par exemple des séries comme les Bobo Diouf au Burkina Faso, ou les Guignols, ou encore Ma Famille en Côte d'Ivoire sur la télévision nationale. Ce sont en général des séries qui croquent la société, hein, qui s'inspirent de nos traditions, de notre actualité, et pour monter leurs séries. Et Ma Famille, par exemple, comme son nom l'indique, c'est une famille, le père, la mère, les enfants, et la belle-mère, bien sûr. Okay. La belle-mère qui s'ingère dans tout. Et le dernier épisode, mais qui a fait rage en Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'une belle-mère qui n'est pas contente de sa belle-fille, donc l'épouse choisie par son fils. Comment un crime de lèse-majesté. Du temps où les parents choisissaient les femmes pour leur fils, elle, lui, va choisir une fille de son choix. La belle-mère n'est pas contente. Elle va créer les pires intrigues, les pires ennuis à la belle-fille, à la bru. Et va convaincre son fils de divorcer.
Oui.
Et elle retourne au village pour lui donner une vraie épouse bien éduquée, qui a le respect des belles-mères,
et
bien soumise, et lui ramène une fille du village, et la donne à son fils en mariage, qui n'a pas moufté, et qui l'a épousée. Bien entendu, une société qui a bien, depuis longtemps, évolué par rapport à ce genre de pratiques. Oui, c'est vrai, on souffre avec nos belles-mères, c'est pas possible, on fait tout, mais elles sont jamais contentes. Voilà le genre de commentaires qu'on entend à la fin de la diffusion d'une série comme celle-là, Ma Famille.
Et puis après, la télé, bien plus tard, est arrivée un miracle ou bien un mirage, c'est le téléphone portable. Alors, tout à l'heure, on a vu que le téléphone fixe était réservé aux élites, et encore, il fallait vraiment le vouloir, mais le portable, c'est autre chose. Écoutez plutôt le groupe ivoirien Zogang qui chante les louanges de notre ami à tous, le cellulaire. Non, pas le cellulaire, hein, le cellulaire, parce qu'on prononce souvent les U comme des I en Afrique francophone.
Les deux gangs est occupé. Appel après le morceau.
Cellulaire.
You
vous retournez au Mali, est-ce que les gens utilisent beaucoup le portable?
Quand je suis venu en France ici, et je suis resté 12 ans sans partir au Mali, je suis parti en 2001, il y avait le portable là-bas déjà, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait la possibilité d'acheter un portable, et donc le jeu d'enfant là, de portable d'enfant là. Que le Chinois débarque ça. Au Mali, je voyais des jeunes, ils mettent le jeu là dans leur poche et tout, tout, tout. Après, dès qu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis là-bas, ils commencent à allumer leur portable. Ça fait prendre. Clon, 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 clon. Les gens croyaient que c'était le vrai portable. Après, il y avait la lumière qui commence à se. Oui, allô, allô, allô. J'ai dit, regarde, lui là, c'est pas un vrai portable. Donc, c'est ça, ça m'a tellement impressionné, mais aujourd'hui ça va. Il y a beaucoup de portables au Mali.
Pourquoi est-ce que tout le monde veut avoir un portable?
Ben, de se montrer, ouais, telle personne il a des portables, moi aussi il me faut un portable. Tout le monde veut avoir un portable pour se montrer, ouais, même si les Européens ils ont des portables, nous aussi on en a ici, quoi, c'est pour
frimer. Paraître.
Pour paraître, ouais, exactement, pour frimer. Avant il n'y avait pas de portable, on vivait avant sans portable, mais pourquoi aujourd'hui on se casse la tête, ouais, il me faut un portable, il me faut ça, il me faut ci. C'est la modernité.
La modernité, donc vue par la malienne Mamani Keïta. Et c'est vrai que, bon, elle donne l'exemple du portable pour se montrer, mais il faut quand même dire que depuis ces 5 dernières années, notamment, ce sont plus des faux portables jouets chinois qui circulent, mais énormément de vrais portables, et que ça peut quand même être très utile, et ça sauve beaucoup de parties du continent qui, du coup, n'avaient pas accès au téléphone fixe, et qui, du coup, peuvent communiquer, je pense, un pays comme le Congo-Kinshasa, qui est immense, qui maintenant est relié vraiment grâce au portable.
Portable, ouais. Et la République démocratique du Congo s'appelait avant le Congo, Kinshasa. Ouais, sauf que, à la différence d'ici, les finances sont si aléatoires que peu de gens ont un abonnement. Et c'est plutôt la vogue des cartes prépayées. Et la vente des cartes prépayées, ça a développé une activité de l'informel, avoir un stand de vente de cartes prépayées. Et ça a créé également les cabines de cellulaire. Ça veut dire tout simplement qu'un jeune homme, une jeune fille qui veut se créer sa petite activité, son petit business, s'installe sur le trottoir en bordure de route et avec, à sa cabine, à des cartes prépayées à vendre et à son téléphone portable, celui qui n'en a pas, il dit, ma chérie, oh, mon petit, faut me téléphoner dans le numéro de mon oncle là. Et puis dans le numéro, et blablabla, et il téléphone. Donc on a les cabines de cellulaire partout dans le capitale comme Bamako, Dakar, Abidjan, Niamey, partout il y en a.
Et donc il suffit d'avoir un portable pour devenir soi-même propriétaire d'une cabine cellulaire.
Tout à fait.
Et le portable en Afrique aussi, parce que c'est pas seulement ici, le portable ça finit par saouler. Watcha! Et voici le reggaeman du Burkina Faso ZS sur France Inter, et ça s'appelle Prisonnier du portable.
Je ne peux plus respirer et partout ça sonne. Le chaos a percé, mes oreilles bourdonnent. On ne peut plus respirer et partout ça sonne. Le chaos a percé et mes oreilles bourdonnent. Est-ce que tu as mangé des enfants? Fomana wan bankman beka. Yam soba hubardi. Hey hey hey. Tranquille, au cinéma à toi un voisin connecté. Je t'assure mon gars, c'est pas facile. Même au cimetière les morts ne sont plus respectés. À la mosquée on était plus à la conduite à l'eau. À l'église même Jésus est bafoué beau. On se demande parfois qui porte qui. Le portable ou le porteur, dites-moi les amis.
Le téléphone portable, c'est comme le grand manger.
Allô? Bonjour, bébé. chaque chose à son temps.
Un jour la gosse de Neke Neke avec son gars. Au bon moment le portable sonne, le colombo décrossa. Il reste Kawa, la go a giflé ça. Quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Et puis arrête de crier quand tu causes à tes amis. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu dis. Tu fais le fier avec ton bidu. Tu ne sais même pas que ça te rend du cul.
Ce téléphone portable, c'est comme le bon manger. Quand on abuse, ça provoque la diarrhée. Le téléphone portable, c'est comme le bon manger. Quand on abuse, ça provoque la diarrhée.
DDS sur France Inter, prisonnier du portable ou la maladie du cellulaire. Solo, on aurait pu parler de plein d'autres choses encore, hein, comme les attributs de la modernité. Je te propose qu'on retrouve notre ami Bindan Gazolo, le conteur camerounais et fin observateur des villes africaines, pour qu'il nous fasse son diagnostic, comme toujours assez sévère, de la modernité sur le continent.
Comme on dit souvent en Afrique, on veut vivre comme les Blancs, on n'a pas les moyens des Blancs. Parce que être moderne en Afrique, c'est la consommation à la manière occidentale. Avoir des équipements. Une belle maison, l'électroménager, l'électricité, donc pour pouvoir faire fonctionner tout ça, le téléphone, la voiture, bref, tout ce que la société de consommation occidentale produit et que nous ne produisons pas, que nous ne faisons que consommer. C'est ça, aujourd'hui. En Afrique, être moderne. Le téléphone portable est venu démocratiser la communication et les ordinateurs avec Internet sont venus encore ouvrir une autre vanne, mais n'empêche, nous sommes toujours en situation de consommateur. C'est ça, être moderne aujourd'hui en Afrique. Et ce modèle-là atteint même les villages les plus reculés. Disons, l'échelle, c'est à peu près ça, de comparaison, c'est le village est tourné vers la ville africaine la plus importante. Ceux qui vivent dans ces villes africaines sont tournés vers l'Occident. Alors, ça donne ce schéma, c'est que beaucoup de jeunes, l'écrasante majorité des jeunes pendant une période, aspiraient, puisque dès lors que le prix des matières premières est tombé bien bas, il n'y avait plus de ressources, donc l'unique possibilité d'avoir quelques ressources, d'espérer avoir du travail et d'avoir un peu d'argent, c'était d'aller en ville chercher du travail. Or, arriver en ville là-bas, ils ne font que grossir le lot des chômeurs qui sont là parce qu'il n'y a pas suffisamment d'usines. La plupart des biens de consommation dont nous avons besoin, des équipements qui nous font entrer dans la grande consommation, dans la modernité, nous ne les produisons pas, donc nous devons nous les offrir avec quels moyens. Et donc, quand on arrive en ville, on se rend compte que la ville ne nous permet pas d'accéder à cette modernité. Donc, on rêve d'aller beaucoup plus loin, aller d'abord dans la ville africaine voisine où ça pourrait aller mieux. C'est-à-dire que les Nigériens vont venir à Abidjan, les Burkinabés vont venir en Côte d'Ivoire, les Maliens, ainsi de suite, les Nigériens vont aller au Cameroun, les Camerounais vont aller au Nigeria, enfin, donc ça bouge à l'intérieur, et le top du top, c'est de traverser la Méditerranée, parce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'on fabrique tout ce dont on a besoin sur le continent. C'est là-bas qu'on fabrique même l'argent qu'on utilise. Donc, il faut aller là où on fabrique l'argent, pour avoir de l'argent, évidemment. Voilà.
Merci Binda. Solo, aujourd'hui, bon, on a passé en revue plein d'attributs de la modernité, mais qu'est-ce qui reste finalement aujourd'hui encore à trouver ou à avoir pour être moderne?
Je crois que le dernier élément de la modernité, il reste quand même l'ordinateur et l'Internet. Et il a suscité un engouement incroyable sur le continent. Les cybercafés constituent aujourd'hui un secteur très porteur de l'activité informelle. On revient toujours à cette activité informelle. Quiconque a les moyens de s'offrir un ordinateur, il s'installe et il crée un cybercafé. On voit donc, par exemple, des enfants venaient avec leur grand-mère au cybercafé pour envoyer un mail au fisc en Amérique ou en France. On sait que c'est très rapide. Et il a même remplacé l'écrivain public.
Voilà. Et puis il y a aussi justement dans la foulée les webcams qui se développent. Et même si c'est vrai que pour l'instant on parle de fracture numérique, c'est-à-dire que l'Afrique est sous-développée en termes d'accès à Internet, parce que les gens n'ont pas les moyens d'avoir Internet notamment à la maison, et bien là encore Internet est développé comme un outil communautaire, hein, comme on l'avait vu du téléphone.
Tout à fait. So,
encore un dernier petit mot juste pour savoir, aujourd'hui finalement les domaines où on pourrait parler de modernité non importée, de la modernité à l'africaine.
Il y aurait une multitude de secteurs, mais je voudrais m'arrêter sur, par exemple sur l'esthétique vestimentaire où les Africains, les stylistes africains aujourd'hui s'inspirent d'une zaza qui est un patchwork traditionnel qu'on associe pour faire des toiles dans lesquelles on fait la confection. Ou alors les tresses. De mon temps, une fille qui était défrisée, alors elle n'était pas aimée. Aujourd'hui, les tresses sont revalorisées et ça reste quand même une esthétique moderne africaine.
Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci à Michel Soulier, notre réalisatrice postmoderne, parce que c'est mieux que moderne, postmoderne, à notre nièce et attachée de production Hortense Boll. On attend toujours la dot, on vous le rappellera jamais assez. Et puis aussi à Olivier Riotard et Michel Bézikian, qui étaient aujourd'hui à la technique. Et on se retrouve bien sûr demain pour la dernière émission de la semaine. Demain donc ce sera une émission un peu spéciale hein, puisqu'elle sera ouverte aux demandes de disques que vous avez pu et que vous pouvez toujours continuer à nous demander par mail hein, en vous rendant sur le site de Radio France, donc radiofrance.com ou franceinter.com. Vous allez sur l'émission L'Afrique Enchantée. Avec Solo, on vous dit à demain avec le même plaisir.
Amekassini, ça veut dire à demain, Gula.
Attention, voici la publicité.
Un mois de fou, chérie, tu dois être épuisé.
Oui, mais pour changer d'air, on part dans l'Aude, visiter les châteaux du pays Qatar.
Ah, après le foot, c'est dans l'Aude. Pour vos vacances et week-ends découvertes, audetourisme.com, Aude Pays Qatar, quelle histoire.
Dans quelques minutes, vous retrouverez Mathias Degueil et sa conduite accompagnée. Et tout de suite, ce sont les infos sur France Inter, puisqu'il est 15h.